Défendre l'économie mixte est vraiment difficile. Après tout, comment s'enthousiasmer pour quelque chose qui fonctionne, ce que fait l'économie mixte? Comment se passionner pour quelque chose qui est fonctionnel? Mais je pense que nous devrions le faire. Je pense en fait qu'il est essentiel que nous recommencions à parler de l'importance des économies mixtes, car le monde de la politique est dominé par des récits qui prétendent que l'économie mixte n'existe pas, ne fonctionne pas et est même nuisible. Et tout cela est absurde. Nous devons rendre hommage à quelque chose qui est fondamental pour notre bien-être, à savoir l'économie mixte. Alors pourquoi devons-nous en parler maintenant? Eh bien, fondamentalement, parce que les marchés libres nous ont clairement déçus. Nous nous sommes engagés en faveur des économies mixtes dans la plupart des pays du monde de 1945 à 1980 environ, pendant ce que l'on a appelé l'après-guerre. À cette époque, nous étions d'accord sur le fait que si l'État et les marchés travaillaient ensemble, nous obtiendrions les meilleurs résultats pour le monde. Et puis nous avons eu un retour de bâton. Le contre-coup s'est produit lorsque nous avons commencé à introduire les monnaies fiduciaires, qui ne sont pas garanties par l'or, mais simplement par la promesse d'un gouvernement. Et plus particulièrement, nous avons eu un contre-coup lorsque le monde n'avait aucune idée de la manière de gérer les conséquences du conflit au Moyen-Orient dans les années 1970 et les crises économiques qui en ont découlé. Ces crises ont été exploitées par les néolibéraux et ils ont promu l'idée que nous devrions donner la priorité au marché comme solution à tous les problèmes connus dans toutes les économies du monde. Mais le fait est que cela n'a pas fonctionné. Ce que nous avons vu, c'est que des crises se sont développées, révélant de profondes faiblesses structurelles dans les économies de marché mondiales. Cela a conduit à des choses comme les effondrements financiers de 1987, de 2008, peut-être de 2000, bien que dans l'ensemble, nous ayons évité la plupart des dommages de celui-là. Et bien sûr, nous en avons eu un autre en 2020, qui était lié au Covid, mais où les marchés auraient échoué de même. Nous avons donc besoin d'un cadre qui réponde aux besoins des gens, et les gens ont compris que les marchés ne sont pas cela. Et s'il y a une chose dont nous pouvons être sûrs maintenant dans le monde de l'économie et de la politique, c'est que les gens réalisent que ce que nous avions fonctionné et que ce que nous avons maintenant ne fonctionne plus. C'est pourquoi il est vraiment important de discuter de l'économie mixte en ce moment. Nous devons à nouveau avoir une économie mixte. Nous devons en faire une priorité. Et, ce faisant, nous devons parler de la manière dont les instruments de la social-démocratie qui ont été créés après la Seconde Guerre mondiale, à savoir la santé universelle, l'éducation, le logement, la sécurité sociale, un filet de sécurité en conséquence, et toutes ces autres choses qui ont sorti les gens de la pauvreté qui était leur destin dans les années 1930 et ont créé la prospérité pour tant de personnes à partir des années 1950, peuvent être à nouveau mis en œuvre. Car en raison de la politique néolibérale, l'engagement envers ces choses a été abandonné et nous en avons payé le prix fort. Les gens veulent récupérer ces choses. Ils ne veulent pas de marché sans entrave. Les partis politiques qui se sont montrés attachés à ces marchés sans entrave en paient aujourd'hui le prix fort. Cela inclut les démocrates aux États-Unis qui n'ont pas été capables de défendre ce qu'ils faisaient autrefois, à savoir la social-démocratie, et les démocrates au Royaume-Uni qui sont fondamentalement en train de s'effondrer parce que lorsque les gens ont réalisé que tout ce qu'ils avaient à offrir, c'était davantage de solutions de marché, ils les ont rejetées. Donc ce que nous voulons et ce que les gens veulent clairement, c'est cette économie mixte, même si nous n'en parlons pas. Qu'est-ce que l'économie mixte? Soyons clairs sur nos termes ici. Une économie mixte n'est ni plus ni moins qu'un partenariat entre l'État et une entreprise privée. Cela ne signifie pas qu'ils doivent être formellement en partenariat. L'État n'est pas obligé de posséder des entreprises privées. Les entreprises privées ne sont pas obligées de reconnaître qu'elles ont une relation contractuelle directe avec l'État. Mais il existe une relation implicite dans laquelle chaque partie sait qu'elle dépend de l'autre pour réussir. Et ils le font en faisant chacun ce qui est le mieux adapté à ses aptitudes. Nous examinons donc les choses qui sont efficaces et nous examinons les résultats et pas seulement l'idéologie comme moyen de décider comment nous allons gérer l'économie. Et la réalité est que les marchés et les États dépendent les uns des autres. Tous deux contribuent à la prospérité et à la stabilité. Et ils ne sont même pas rivaux. Ils collaborent en réalité dans un but commun. Quand on prend du recul et qu'on regarde rationnellement ce qui se passe dans le monde réel dans lequel nous vivons et continuerons de vivre, car il n'y a aucune chance que nous cessions de vivre dans une économie mixte pendant le reste de ma vie, de votre vie ou de celles qui ne sont pas encore nées, ni l'État ni les marchés ne fonctionnent seuls. C'est une simple déclaration de fait, et peu importe ce que disent les idéologues. Il n'y a pas d'alternative à l'affirmation que je viens de faire. Nous avons besoin de cette combinaison. Et pourtant, la politique a été dominée par les partisans des marchés ou de l'État. Et ces derniers temps, uniquement des marchés, car les partisans de l'État ont presque entièrement disparu. Quel est donc le rôle de l'État? L'État est absolument essentiel, car il fournit l'infrastructure et les règles dans lesquelles les marchés peuvent fonctionner. Sans règles, les marchés ne peuvent pas fonctionner. C'est un peu comme essayer de jouer au football sans règles. Cela ne peut tout simplement pas se produire, car si une partie a 15 joueurs et l'autre n'en a que 9, et qu'une partie reconnaît une règle du hors-jeu et l'autre non, vous n'obtenez pas un résultat équitable. Vous ne pouvez pas obtenir de concurrence. Ainsi, l'État, en fixant les règles de la concurrence, facilite en réalité les marchés afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Dans le même temps, l'État doit reconnaître que les marchés échoueront. C'est parce qu'ils sont totalement incapables de tenir compte de ce que l'on appelle les externalités. C'est la conséquence des transactions du secteur privé pour le monde entier qui ne peut pas être reflétée dans le mécanisme de prix que nous payons pour tout ce que nous obtenons. Ainsi, par exemple, les fabricants de tabac peuvent fournir des produits toxiques sans avoir à tenir compte des conséquences sur la santé. Nous appliquons donc des taxes pour corriger cela et nous faisons la même chose en ce qui concerne le carbone, l'alcool, les jeux d'argent, etc. C'est l'État qui corrige les défaillances du marché et il doit le faire de plus en plus car le nombre de défaillances du marché que nous observons est bien sûr en augmentation, le changement climatique étant la plus importante de toutes. Mais l'État existe aussi pour faire quelque chose que les marchés ne savent pas faire, à savoir penser à long terme. La manière dont les décisions des entreprises ont évolué signifie que tout ce qui se passe à plus long terme, c'est-à-dire plus de 15 ans, est fondamentalement ignoré lorsqu'il s'agit de prendre des décisions d'investissement. Mais une grande partie de ce dont nous avons besoin aujourd'hui repose en réalité sur des décisions à long terme, dont les conséquences ne se manifestent que bien après 15 ans. L'État est donc le mieux placé pour faire ces choses, qu'il s'agisse de fournir des infrastructures de transport ou des infrastructures énergétiques, y compris bien sûr la défense contre les inondations et le changement climatique. En d'autres termes, l'État donne la priorité aux personnes et non aux profits. Il donne la priorité au long terme et pas seulement au court terme, et il donne la priorité à la société et non aux gains individuels. Le rôle des marchés, en revanche, est bien sûr d'entreprendre une activité commerciale, ce qui n'a rien de mal. Nous avons besoin d'une activité commerciale. Je suis très heureux que les marchés puissent produire les produits que je veux. Ils peuvent brasser ma bière. Ils peuvent cuire mon pain. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, tant que c'est sûr. En d'autres termes, tant qu'ils entreprennent ces activités dans le respect des règles établies par la société pour s'assurer que chacun est protégé, ils peuvent également stimuler l'innovation, l'efficacité et fournir ces services s'ils le peuvent, car c'est ainsi qu'ils augmenteront leurs bénéfices et ils ont cette motivation. Ils peuvent même créer de la diversité et du dynamisme dans les services, ce qui se traduira à long terme par de meilleurs résultats pour la plupart d'entre nous. Mais cela, comme je l'ai déjà souligné, ne peut se faire que dans le cadre de directives et de limites. Les marchés doivent être responsables des externalités de leurs activités. Et par conséquent, nous devons également être conscients que les marchés sont très pauvres en matière de soins, de santé, d'éducation et même de logement, en particulier pour ceux pour qui l'accès au marché est très difficile. La théorie des marchés, qui prétend qu'ils produisent des résultats optimaux pour l'allocation des ressources au sein de la société, repose sur l'hypothèse que tout le monde a un accès égal aux ressources. Mais le fait est que ce n'est tout simplement pas vrai. Nous savons que la grande majorité des habitants de nombreux pays n'ont que très peu d'épargne, voire aucune. Et nous savons que la répartition des revenus est terriblement biaisée en faveur de quelques-uns, la majorité gagnant peu. Donc, si les marchés doivent exister, l'État doit s'assurer que les gens y ont accès, ce qui est précisément la raison pour laquelle l'État doit, par exemple, mettre en place des systèmes d'imposition progressive. Car, sans système d'imposition progressive et de prestations sociales, les marchés échoueraient en fait, car il y aurait un manque de clients à qui ils pourraient réellement vendre des produits. Les marchés dépendent donc de l'État, car l'État est un facilitateur. Il renforce les capacités sur lesquelles les marchés peuvent être construits. Il pose les bases de la réussite des entreprises. Il assure la résilience en temps de crise et fournit ce que les marchés ne peuvent pas fournir à long terme, tout en corrigeant leurs défaillances et en protégeant ceux qui n'y auraient pas accès autrement. Nous avons perdu beaucoup de ces choses au cours des 45 dernières années. Le néolibéralisme a détruit la compréhension de l'importance de toutes ces choses. Le résultat est que nous nous trouvons dans une situation où le monde est fragmenté. Des décennies de privatisation ont affaibli les équilibres au sein de notre économie et l'intérêt public est devenu une réflexion après coup. Mais nous pouvons reconstruire. Nous pouvons mettre en place un système dans lequel les États et les marchés peuvent coopérer. Nous pouvons faire valoir l'intérêt public pour garantir que les investissements dans les services et les infrastructures dont nous avons besoin soient disponibles afin que les marchés puissent fonctionner à long terme. Nous bâtissons de vrais partenariats pour répondre aux besoins réels. Et nous pouvons faire tout cela dans un environnement de soins. Il ne s'agit pas de choisir des sites. Il s'agit de parler de ce qui est pragmatiquement possible et qui a fait ses preuves. Et c'est ce que sont les économies mixtes. Elles sont la manière dont nous faisons face à des problèmes communs en trouvant des solutions communes. Une économie mixte est la manière dont nous travaillons ensemble et c'est une économie qui donne la priorité aux personnes.